C'est qui ce travail ? L'émission de la Maison de l'Emploi Midi-Quercy, réalisée par Nathalie Dufort. Tous les mois sur CFM, des parcours exemplaires de femmes qui exercent des métiers dans lesquels elles sont peu représentées. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai choisi de faire cette émission. Je me suis posé des questions qui ont été à l'origine en fait de l'émission. C'est il y a des métiers sur lesquels les femmes sont peu représentées. En face, il y a des secteurs d'activité en Midi-Quercy qui recrutent et qui ont même des problématiques de recrutement. Et puis on a peu de candidats. Je me demande pourquoi les femmes particulièrement n'iraient pas sur ces métiers-là. Donc plutôt, on va dire, la construction, l'industrie, des métiers techniques, ou même le fait d'être chef d'entreprise. Parce qu'il y a des chiffres qui sont assez marquants. Par exemple, en Midi-Quercy, 9% des salariés et des chefs d'entreprise dans la construction sont des femmes. C'est-à-dire qu'il y a 1243 personnes qui travaillent dans le bâtiment, et il y en a 10% qui sont des femmes. Et c'est un secteur qui recrute. Et c'est un secteur qui a des difficultés de recrutement. Alors pourquoi il faudrait qu'il y ait 50% de femmes et d'hommes dans chaque secteur, dans chaque catégorie socio-professionnelle ? Est-ce que vraiment c'est ce qu'on recherche ? Est-ce que c'est ça l'égalité professionnelle ? En fait, c'est pas tellement ça la question. Les inégalités professionnelles, en fait, elles tiennent du fait que d'abord, les femmes sont proportionnellement plus au chômage que les hommes. On les retrouve aussi en proportion plus importante sur des métiers précaires. Les niveaux de salaire, la moyenne du salaire, du coup, est inférieure pour les femmes que pour les hommes. Et c'est pas le cas qu'en Midi-Quercy, c'est le cas au niveau national, départemental, régional. On les retrouve aussi moins dans certaines filières. Les jeunes filles qui choisissent des études, on les retrouve moins sur des filières qui sont plus rémunératrices et sur des métiers plus valorisés. Et c'est encore plus vrai, bien sûr, dans les territoires ruraux. Voilà, donc l'idée de l'émission, c'était d'interviewer des femmes qui ont des parcours exemplaires, c'est-à-dire à titre d'exemple, des choses sur lesquelles on pourrait s'identifier de façon positive, des femmes qui aiment leur métier, et dans des secteurs où elles sont peu représentées. Donc particulièrement, là aujourd'hui, c'est le secteur de la construction, et on va pouvoir écouter deux femmes. La première, c'est Lacaro, qui est enduiseuse. Son parcours est assez intéressant, parce qu'au départ, elle était danseuse. Donc là, aujourd'hui, elle travaille dans le bâtiment, et elle est à son compte. Et on va écouter donc maintenant Fanny, qui, elle, après des études d'architecte, a choisi de faire un CAP de menuiserie et qui vient juste de le terminer. On l'écoute.
Je m'appelle Fanny Caco, j'ai 30 ans et j'habite à Saint-Antonin-Nobleval. Je suis architecte de formation et je viens tout juste d'avoir mon CAP de menuisier. Donc je l'ai passé cette année en alternance au sein des Compagnons du Devoir à Toulouse. Après, pour revenir un peu sur mon parcours, moi j'ai grandi à Lyon. Donc j'ai commencé mes études par une année d'histoire de l'art et d'anglais à la fac à Lyon. Et ensuite, je suis allée à Grenoble pour étudier l'architecture, donc au sein de l'École nationale supérieure d'architecture. Au cours de mes études, très vite, en fait, j'ai senti, au moment de choisir un métier, on va dire, je voulais un métier qui soit à l'entre-deux, c'est-à-dire qui soit à la fois, qui ait une forte valeur créative, mais aussi un métier avec une dimension scientifique. Et en fait, mon parcours, c'est toujours un peu articulé entre ces deux, on va dire, ces deux axes. Donc, le choix de l'architecture s'est présenté assez rapidement parce que pour moi, c'était un bon compromis entre des données assez à la fois techniques, sociologiques, etc., mais aussi une forte dimension créative. Donc j'ai fait mes études à Grenoble, que j'ai adoré. C'est une étude absolument passionnante. Et ce qui était intéressant, c'est que, en fait, à l'école d'architecture, on n'apprend pas seulement l'architecture, un métier, mais aussi on développe une éthique et une certaine vision du métier qu'on veut exercer. Parce qu'architecte, c'est pas seulement construire des bâtiments en béton, en bois, en quoi que ce soit. Il y a aussi une démarche sociale, sociologique qui est très importante. Et dans l'école où j'étais, en l'occurrence, il y avait l'accent était vraiment mis là-dessus, quoi, sur pourquoi on fait ces projets, pour qui, comment. Et donc toute cette dimension sociale m'a beaucoup plu. Et moi aussi m'a forgée en tant que personne. C'est-à-dire que j'ai développé ma personnalité d'architecte, mais pas seulement d'un point de vue esthétique, aussi d'un point de vue de mes convictions politiques, sociales, etc. Et du coup, donc au fur et à mesure des années, on travaille sur différents types de projets. Et très vite, j'ai été attirée par plutôt des projets de petite échelle, c'est-à-dire que travailler sur des, je sais pas, des hôpitaux, des grandes surfaces, des grandes structures, ça m'intéressait, mais moi j'étais plus, au niveau de ce que j'appelle la petite échelle, ça peut être aussi un petit équipement public, une maison individuelle, mais aussi bien du mobilier, c'est-à-dire que c'était travailler sur des petits projets pour aussi avoir pouvoir maîtriser des détails, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi bien dessiner la maison, on va dire son implantation dans un terrain, mais aussi la poignée de porte ou une bibliothèque. Donc c'est ça en fait, c'est que pour moi l'échelle de projet était importante pour travailler sur ces différents détails. Et donc très rapidement je me suis intéressée à la menuiserie, mais de manière indirecte. C'était plus les projets qui me plaisaient, c'était des projets qui faisaient aussi la part belle à la mise en œuvre de matériaux, à du mobilier, à de l'aménagement intérieur. Donc j'ai développé cette sensibilité-là au cours de mes études. Et après, je l'ai expérimenté, par exemple, sous forme de... Je me suis pas mal engagée en tant que bénévole sur des festivals, où j'ai fait de la scénographie, par exemple. Et j'aimais bien parce qu'à la fois, ça faisait appel à... Il y avait, pareil, toujours ce saut d'échelle et la dimension artistique. Donc j'ai travaillé sur des festivals de musique, des festivals de mode. Et le fait de aussi... de sortir un peu de l'école, de sortir de son ordinateur ou de ses carnets de dessin, de ses calques, et de se retrouver sur un chantier avec des morceaux de bois assemblés. C'était pas vraiment de la menuiserie, mais c'était déjà quand même un peu une découverte de la matière, du bois, des assemblages, de construire aussi, apprendre à construire. Donc on va dire qu'il y a eu cet intérêt pour la menuiserie au fur et à mesure de mes études qui s'est un peu précisé. Donc j'ai été diplômée. J'ai été diplômée à une mauvaise période, enfin, c'était en 2012, donc c'était la fin de la crise. C'était très difficile de trouver un travail quand on était jeune diplômée, sans expérience. En gros, les agences n'embauchaient pas trop. Donc j'ai traversé une période un peu floue post-diplôme, où j'ai exercé différents jobs dits alimentaires, mais qui... m'ont aussi énormément apporté. En parallèle de ça, je travaillais sur des concours d'architecture. Et puis, très vite est apparue l'idée de partir à l'étranger. C'est-à-dire que je me sentais un peu frustrée en France, parce que moi, j'avais envie de travailler, j'étais extrêmement motivée, mais personne ne... Il n'y avait pas de place pour moi. Et donc, l'idée est venue de partir au Japon. J'avais une vraie curiosité pour ce pays qui... Enfin, je trouve est assez fascinant dans tous ces paradoxes et ces contrastes. Et j'avais envie de découvrir cette culture, mais l'art, la mode, la gastronomie, mais surtout l'architecture. Car on avait vu au cours de nos études, on étudie beaucoup l'architecture japonaise, avec des grands maîtres comme Tadao Ando, entre autres, qu'on voit quand même pas mal en France. Donc les petits métiers, les petits boulots que j'ai pratiqué pendant, on va dire, un an, m'ont permis aussi de rendre ce projet concret. Donc je suis partie vivre au Japon, à Tokyo, pendant presque un an. J'ai travaillé dans une agence d'architecture qui, pour moi, était vraiment et est toujours une de mes agences préférées dans le monde, si je puis dire. Donc ça s'appelle Skimata Architect. Et c'est une agence qui, typiquement, travaille donc sur des petits projets d'aménagement intérieur, de retail, donc des aménagements de boutiques, quelques maisons, et ils font aussi beaucoup de mobilier. Donc ils travaillent en collaboration avec des artisans japonais, mais eux aussi développent en interne du mobilier. Donc, suite à cette super expérience, je suis rentrée en France. Donc, j'ai effectué la dernière année d'architecture qui s'appelle... c'est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Donc, c'est la sixième année qui vient compléter le cursus. Et en fait, cette année nous permet de pouvoir nous inscrire à l'ordre des architectes, de, en gros, monter notre agence, signer des plans, etc. Donc, j'ai fait cette année en alternance au sein d'une agence. Et donc, suite à ça, ça faisait quand même quelques années que j'étais à Grenoble et j'ai ressenti un besoin de voir un peu ce qui se passait, on va dire, dans les territoires ruraux, à la campagne. Je sentais qu'il y avait des dynamiques très intéressantes en place, notamment parce que j'avais participé à différents concours d'architecture et c'est des thématiques qui portaient justement sur... le périurbain, sur des territoires ruraux, sur comment revitaliser des centres-bourgs, des questions très actuelles en architecture et en urbanisme. Ça m'avait passionnée de travailler sur ces sujets-là et je me suis dit, quitte à aller, autant aller jusqu'au bout, donc autant déménager et découvrir ces territoires et voir ce que ça donne en fait d'être architecte aussi en territoire rural. Donc j'ai quitté Grenoble pour la Dordogne. Donc j'ai vécu à Sarlat pendant 2 ans et j'ai travaillé dans une agence qui justement se revendiquait d'avoir un ancrage rural, mais par contre avec un rayonnement national, voire international. Donc j'ai arrêté cet emploi et par un concours de circonstances assez marrant, on va dire que je me suis retrouvée ici, donc à Saint-Antonin, Nobleval, où j'ai travaillé dans une agence... avec Franck Boyer, donc à Caylus, au CRE de Caylus. J'ai travaillé quelques mois. Et en fait, déjà, donc avant de travailler dans cette agence, le projet de menuiserie était revenu parce que je commençais à avoir quelques années d'expérience en architecture et je commençais à perdre un peu mon enthousiasme. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Enfin, je suis très optimiste et très enthousiaste dans la vie et j'aime profondément l'architecture. Et là... suite à mon expérience en Dordogne, je commençais à être un peu frustrée par... après, il y a pour plein de raisons, mais je me retrouvais pas forcément dans les échelles des projets sur lesquels je travaillais, où je trouvais que c'est un métier qui s'est énormément complexifié au fur et à mesure des années. Et j'avais, comme beaucoup de gens aussi de mon âge, c'est une vraie question générationnelle, des trentenaires aussi... mais c'est la crise des trentenaires, mais je commençais à sentir une espèce de perte de sens dans mon métier. Et ça m'a vraiment interpellée parce que j'adore l'architecture, mais tout d'un coup, être architecte me plaisait moins. Et du coup, je me suis dit, autant faire une pause et autant rendre ce projet de menuiserie qui, du coup, me trottait en tête depuis quelques années, concret avant de... Je ne veux surtout pas me dégoûter de mon métier, donc je me suis dit... Je vais faire une pause et puis je vais me consacrer à la menuiserie.
Vous êtes bien sur CFM, on est dans l'émission C'est quoi ce travail ? Et tout de suite, après la musique, on va pouvoir retrouver la suite du parcours de Fanny Caco.
Washed it away.
Donc j'ai donc quand j'ai quitté mon travail et avant de reprendre donc un emploi saisonnier l'été dernier, donc j'ai fait toutes les démarches de pour me renseigner pour cette formation. Et ça, c'est un sacré parcours du combattant parce que la formation, ça reste très obscur, je trouve, en France. Enfin, la formation pour adultes, notamment. Et c'est difficile de trouver des informations. Donc, j'ai passé pas mal de temps à recenser les différents organismes, à voir quels étaient les formats qu'ils proposaient aussi, en fonction de mon âge. Parce qu'il faut savoir que quand on a plus de 25 ans, on n'est plus considéré comme apprenti. Donc, les choses changent aussi, les formules changent. Donc ça a été assez laborieux. Et puis surtout, il suffit pas seulement de trouver la formation, il faut aussi comprendre comment elle est financée. Et ça, c'est le financement de la formation. Pareil, j'ai découvert ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc après toutes ces recherches, je me suis dirigée donc vers les Compagnons, précisément l'association des Compagnons du Devoir à Toulouse, qui proposait une formation en alternance, donc c'est-à-dire une formation qui dure un an, donc au lieu de deux. Donc c'est en formation continue. On est dispensé de toutes les matières générales vu que j'avais déjà un diplôme. Et donc en fait cette formation s'organise en 12 semaines. Donc on a 4 semaines dans une entreprise. Donc on travaille à temps plein. 2 semaines à l'école. Et voilà, ça s'enchaîne comme ça sur un an. Donc du coup la formation est aussi... le financement était réglé par cette histoire d'alternance. Donc moi, ça me paraissait la meilleure formule possible. Et puis les Compagnons restent aujourd'hui pour moi un modèle d'artisanat exceptionnel. Enfin, pour moi, je trouve que ça permet aussi de maintenir vivant des savoir-faire, des traditions qui existent depuis des centaines d'années. Et je trouve que même dans l'apprentissage en tant que tel, il y a un plaisir de la transmission et une pédagogie que j'avais jamais retrouvée, que j'avais jamais vue ailleurs. Donc voilà. Donc après, une fois que j'avais trouvé cette formule, le financement, tout était bien, il fallait trouver une entreprise. Et ça, c'était une sacrée aventure. Bon, déjà après, parce que je m'y suis pris un peu tard, parce que j'ai déménagé ici il y a à peu près un an. Donc il faut savoir que pour trouver une alternance, c'est quand même bien de s'y prendre un peu en avance, et notamment au printemps. Moi, je suis arrivée un peu en retard. Donc, j'ai fait toute une étude de... j'ai prospecté, en fait, dans un rayon à peu près de 40 km autour de chez moi. J'ai vu toutes les entreprises de menuiserie qui existaient. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi deux échelles d'entreprise. C'est-à-dire que je généralise un peu, mais on est soit sur un artisan qui va... être seul ou avec un ou deux salariés, qui du coup n'a pas les moyens ni matériels ni financiers pour accueillir quelqu'un en alternance, donc avec un contrat pro, donc qui est l'équivalent d'un SMIC, donc c'est quand même une somme importante pour un petit artisan. Soit on est vite dans des entreprises beaucoup plus, grosses, autour de, on va dire, de 10-15 salariés, qui donc elles ont les capacités d'accueillir quelqu'un. Mais les places sont, évidemment, les places sont chères et les places sont limitées. Donc, il y a eu toute cette période de prospection. On approchait le mois d'août, donc pour une rentrée en septembre. Et évidemment, c'était la condition sine qua non pour rentrer dans la formation. Il fallait trouver une entreprise. Et au dernier moment, on a été reçus, parce qu'en fait... Donc mon conjoint est architecte et a souhaité faire la même formation que moi. Donc ce qui était assez étonnant, c'est quand on a postulé pour ces jobs, on postulait en couple. Et on s'est posé la question, on s'est dit c'est quand même super bizarre de postuler en couple, mais en même temps on s'imaginait pas envoyer un mail et puis l'autre renvoyer 5 minutes après. Donc on envoyait des mails communs qui aussi nous permettaient de présenter le projet, d'expliquer voilà, notre démarche, pourquoi on faisait ça. Et donc on s'est retrouvés début août, c'était le jour où l'entreprise allait fermer, où le patron partait en vacances. Donc il nous a reçus tous les deux. Donc on a fait un entretien de couple, d'expérience assez surréaliste. c'était assez surréaliste. Et voilà, donc il nous a dit, bon, bah, j'ai reçu votre mail, je suis intéressée, je suis curieux de votre projet. Donc voilà, on s'est retrouvé un peu à expliquer notre démarche, donc ce qu'on avait fait en tant qu'architecte, pourquoi on voulait tout d'un coup, on va dire, se réorienter vers la menuiserie ou vers un métier plus manuel. Donc on a eu cet entretien-là, l'été est passé, et on le sentait intéressé par nos parcours, mais il nous avait dit, en tout cas, si je peux prendre quelqu'un, je pourrais malheureusement n'en prendre qu'un. Bon. Et puis, on en avait discuté tous les deux, et l'entreprise, en l'occurrence, était à Albis, donc ça représentait quand même une certaine distance à parcourir tous les jours. Et moi, j'étais prête à le faire. Je me suis dit, bah, c'est aussi un des inconvénients d'habiter en territoire rural, c'est qu'il y a du travail, mais il faut aussi savoir se rendre flexible et accepter certaines conditions. Donc moi, en l'occurrence, c'était faire 50 km pour aller travailler, mais j'étais motivée, j'avais envie de faire cette formation et j'avais la chance d'avoir une entreprise qui potentiellement pouvait me prendre. Donc on s'était dit, bon, bah, si jamais on doit choisir, ça sera moi. Et finalement, donc on a rappelé le patron au retour de ses congés. Il nous a dit, bon, bah, j'ai envie de prendre l'un d'entre vous, et par contre, je préférais prendre Fanny, parce que c'est une fille. Et donc, discrimination positive pour une fois. Mais en fait, ses arguments, c'était qu'il avait déjà eu des filles en atelier et qu'il trouvait ça... Il trouvait ça intéressant, en fait, dans la dynamique de groupe, de salariés. Ça amenait quelque chose aussi en plus, ou du moins de différent. Il trouvait que pour l'équilibre, c'était un point fort. Donc il y avait cet argument-là. Et aussi, il m'a dit très franchement qu'il avait conscience que ça serait plus difficile pour moi de trouver une alternance en tant que fille, et que du coup, il avait envie de me donner ma chance. Donc là, c'était incroyable, parce que... Je dois reconnaître, quand j'ai fait les démarches pour chercher une alternance, je me suis dit, je peux pas le nier, je suis une fille. Et ce qui faisait la différence entre, du coup, mon compagnon et moi, c'était le genre, en fait. Donc je me suis dit, soit mon parcours et le fait d'être une femme peut les intéresser, se dire, bon, bah voilà, peut-être que ça peut amener quelque chose d'autre, je sais pas, une manière de travailler différente ou une attitude... Soit c'est complètement rédhibitoire, parce que malheureusement, dans la tête de certaines personnes encore, une femme n'a pas forcément sa place dans un atelier ou sur un chantier. Donc là, j'ai eu de la chance. Donc j'ai commencé mon alternance en octobre dernier, et j'avoue que j'étais très stressée, parce que j'arrivais du coup dans un environnement qui m'était complètement inconnu. Je n'avais honnêtement aucune compétence en menuiserie. J'étais une fille, je travaillais dans une entreprise où il n'y avait que des compagnons. Et du coup, j'appréhendais un peu l'accueil qu'on allait me réserver. J'étais extrêmement étonnée, dans le bon sens du terme, parce que je me suis retrouvée dans une entreprise extrêmement accueillante, extrêmement bienveillante. Et en fait, finalement, le fait d'être une fille, ça s'est jamais... Ça n'a jamais été un problème. Enfin, c'est plutôt évoqué. On en faisait des blagues, mais limite, le plus grave, c'est que je sois architecte. C'était pas que je sois que je sois une fille. Voilà, quand j'ai démarré, ou à chaque nouveau job, on arrive, on sait pas comment faire, et du coup, c'est un peu malvenu ou mal vu de dire, de reconnaître ses faiblesses ou les choses, ses lacunes ou les choses sur lesquelles on est moins à l'aise. Et là, tout d'un coup, bah en fait, je pouvais dire. Alors là, je sais pas comment faire, ou je comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Et il y avait un vrai échange, beaucoup de discussions, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu aussi. C'est au-delà du travail en tant que tel, j'y reviendrai, mais c'était aussi le contexte d'apprentissage qui, pour moi, était idéal. Et après, concernant le travail, ce qui était, enfin, ce qui est passionnant pour moi, c'est que en tant qu'architecte, je sais dessiner des choses, je sais les concevoir, j'ai cette vision, on va dire, du projet, comment dessiner un projet. Mais par contre, toute la partie réalisation, elle m'est un peu, elle m'est un peu obscure. Donc là, c'était finalement aborder Parce que ça reste quand même dans mon domaine de compétences, vu qu'on parle du bâtiment, et on a des plans, donc ne serait-ce que le langage, il est commun, en fait, hein, puisqu'on travaille à partir des mêmes documents qui sont des plans, des coupes, des détails. Mais c'était... Oui, du coup, d'aborder le projet, mais d'une manière beaucoup plus technique et beaucoup plus pragmatique. En l'occurrence, l'entreprise où j'étais cette année fait beaucoup de fenêtres. Donc moi, des fenêtres, j'en ai dessiné, mais j'en ai dessiné sur informatique. Et là, tout d'un coup, on devait vraiment les fabriquer. Donc on travaille, même dans l'échelle, on travaille pas en centimètres, on travaille au millimètre ou même au demi-millimètre. Et donc on voit aussi qu'au fur et à mesure, l'œil s'habitue et voilà, et passe du coup du millimètre au demi-millimètre. Donc c'était de comprendre, voilà, par exemple, une fenêtre, comment elle est constituée, quels sont les assemblages, parce que c'est ça aussi qui fait la beauté de la menuiserie, c'est que c'est ni plus ni moins que la science des assemblages, et des assemblages qui sont souvent invisibles. Et donc de comprendre, par exemple, voilà, quand on regarde une fenêtre, on voit la fenêtre dans son ensemble, mais on ne sait pas forcément comment les constituer, comment les fabriquer. Donc moi, c'était ça, c'était de comprendre tout le processus technique, tout l'enchaînement des tâches pour réussir à livrer un ouvrage qui, finalement, quand on le voit et qu'on a un regard...
Néophyte.
Néophyte, voilà, c'est ça. On ne comprend pas forcément sa technicité. Donc même, ouais, voilà, c'est-à-dire que le travail changeait parce qu'il avait une dimension beaucoup plus concrète. Et aussi, on apprend tout d'un coup à se servir de ses mains, à essayer, à faire des erreurs, à parfois se blesser légèrement. Les outils changent et je trouve que le travail du corps, le travail de la main, du geste, en fait, c'est surtout... ça, c'est fascinant. Il y a vous, il y a vos compétences, mais il y a le bois. Et vous ne pouvez pas le plier. Enfin, c'est pas un dessin sur un logiciel d'informatique. Donc, c'est aussi comprendre la structure du bois, quelle essence de bois on va choisir, dans quel sens on va le travailler, pour respecter le sens du fil, etc. Donc, c'est découvrir la matière, comprendre comment elle fonctionne pour savoir comment la travailler, s'approprier tous les outils, parce que la menuiserie, c'est un nombre d'outils, de machines incroyables, et découvrir aussi le vocabulaire, voilà, tout le vocabulaire de ces outils, des assemblages. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un complément formidable à ma formation parce que tout d'un coup, je commençais à comprendre en fait comment étaient réalisées les choses que je dessinais. Et au fur et à mesure de l'année, je me suis surprise en me baladant par exemple dans la rue. En tant qu'architecte, je regarde forcément les bâtiments. Enfin, j'ai un œil assez attentif à tout ça. Mais là, tout d'un coup, c'était pas juste les bâtiments, c'était des détails de portes, par exemple. Je commençais à m'attarder sur une porte, à me dire « Ah tiens, c'est marrant, elle est faite, il y a tel et tel usinage, il y a telle et telle moulure, il y a... » Donc j'ai passé mon CAP en juin dernier, que j'ai eu, et du coup, tout au long de cette année, à la fois... Donc j'ai découvert ce métier, mais ça a aussi fait écho à beaucoup de questions que je me posais sur quel métier j'ai envie de pratiquer, mais surtout quel architecte aussi j'ai envie d'être. Et c'est vrai que cette année-là, ça m'a permis de, on va dire, de préciser un peu aussi le modèle d'agence, on va dire, que j'aimerais avoir. Donc là, je viens de finir mon CAP, je pars en vacances, des vacances bien méritées. Et ça va aussi me permettre de digérer, parce que ça a été une année très très intense, aussi bien là d'un point de vue physique par l'engagement du corps, mais aussi d'un point de vue psychologique, parce que je me suis posé beaucoup beaucoup de questions sur justement la suite, sur comment combiner ces deux métiers, ces deux sources d'intérêt. Donc là, ça m'a vraiment confortée dans le fait que j'avais envie d'associer à l'architecture une dimension manuelle. Je trouve que les deux se complètent formidablement bien. Donc, dans l'idée, j'aimerais, je pense, continuer la menuiserie. C'est-à-dire peut-être trouver un mi-temps dans une entreprise locale où, du coup, voilà, je pourrais aussi apprendre, parce que la menuiserie, ça s'apprend pas en un an, ça prend... des années et des années, on dit qu'il faut, je crois que c'est 10 000 heures pour apprendre un travail, un métier du moins. Donc là, la rentrée, c'est vrai que j'aimerais continuer à voilà, continuer la menuiserie dans une entreprise et idéalement à mi-temps pour pouvoir me dégager du temps à côté pour pouvoir développer mes projets en tant qu'architecte. Je sais pas voilà concrètement quelle forme ça pourrait prendre, mais continuer à travailler en menuiserie, développer des projets d'architecture et après voilà moi aussi peut-être développer du mobilier ou des projets artistiques, des installations. En tout cas, moi, l'avenir, c'est comme ça que je l'envisage, c'est trouver une forme un peu d'hybridation entre l'architecture et la menuiserie. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire dans cette direction-là, du moins, je l'espère.
Vous êtes bien sur CFM dans l'émission C'est quoi le travail? On vient d'entendre Fanny Caco qui vient de nous raconter son parcours. Et juste après la pause musicale, on retrouvera Lacaro qui est enduiseuse, chef d'entreprise. Et du coup, à propos des chefs d'entreprise, toujours en Midi-Quercy, dans la catégorie artisan-commerçant, chef d'entreprise, on trouve 25% de femmes. Au niveau national, c'est 33%. Donc, il y a du chemin. Et du coup, le témoignage de Lacaro est assez positif dans ce sens-là. À tout de suite.
Je m'appelle Caroline Marc et j'ai un atelier à Caylus, un atelier galerie que j'ai acquis en tant que locataire il y a 2 ans. J'ai à peu près tout sorti ce qu'il y avait dedans pour faire un nouvel espace, un espace où je pourrais expliquer aux gens ce qu'est mon travail afin de pouvoir œuvrer sur le territoire. Entre autres. Donc moi je suis enduiseuse et plasticienne, donc j'œuvre dans le bâtiment, sur des choses très traditionnelles, de l'assainissement de certains lieux pour les rendre plus doux, plus confortables, donc je fais des enduits pour certains isolants, d'autres juste pour faire du bien au cœur et au corps, voilà, avec des matériaux écologiques exclusivement. Je réponds à des commandes. Souvent, les gens s'adressent à moi en me disant « j'aurais besoin de ça ». Ensuite, d'autres types de personnes s'adressent à moi plus pour du décor, pour donner des ambiances à certains lieux, soit dans leur nid, soit dans un lieu plutôt destiné à recevoir des gens dans un cadre un peu particulier. à ce compte-là, je dirais que on pousse presque les murs et on envisage ensemble un univers à définir d'abord et ensuite à réaliser. Donc parfois, je travaille avec d'autres artisans, du coup, pour pouvoir réaliser ces choses-là, parce que je ne sais pas forcément tout faire moi-même. S'il y a des structures en bois à créer, très simples, je peux me débrouiller. Je suis suffisamment outillée, puis j'ai un bagage un peu métissé. Donc voilà, je suis assez autonome. Mais parfois, il faut vraiment faire des travaux conséquents avant que j'intervienne. À ce moment-là, on fait des réunions de groupe avec des artisans, pour certains que je connais, d'autres pas. Et on envisage avec le client comment s'y prendre pour créer un univers propre à cet espace-là. Donc en fait, je disais que mon parcours est métissé parce que déjà, je ne suis pas du tout du coin à la base. Là, je suis installée, j'étais installée sur Quélus. Désormais, je suis à Saint-Antonin. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, je suis par ici, j'y suis bien. Je rencontre des gens qui me plaisent, la nature est sublime, ça a du sens pour moi. Mais je viens du Bordelais, au départ, dans les vignes. Et j'ai quitté cet espace parce que pour moi, ça manquait d'arbres. Et donc maintenant, je vis dans un lieu qui me vient, qui devient pour moi essentiel. Il y a du rocher qui m'inspire tous les jours dans ce que je travaille. Des arbres qui me ressourcent, voilà. Et donc mon métier de base, j'étais danseuse en fait. Je faisais de la danse contemporaine, je travaillais dans plusieurs compagnies, j'ai créé aussi une compagnie à moi, j'ai œuvré là-dedans pendant quelques années. Et puis en fait, comme je suis une bricoleuse de toujours, un jour j'ai cédé à mes tentations. J'ai commencé par retaper une cabane en bois vers la commune de Peine, sur la commune de Peine, mais en dehors du village. Oh là, c'était l'extase totale. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais douée. Donc, ça fait bizarre à entendre ou à dire, mais... Ouais, je me suis rendu compte que les matériaux me parlaient beaucoup, que j'aimais les mettre en œuvre, et les gens étaient touchés par ce que je faisais autant que je l'étais moi-même. Pas tous, évidemment, mais la plupart. Et du coup, j'ai eu envie de faire quelque chose de mes mains, et puis surtout, j'en avais marre de tourner dans la danse, là, être tout le temps sur la route... Ne pas connaître les voisins que j'avais à l'époque, j'habitais puis celle-ci, ça m'attristait beaucoup. Et je connaissais mieux les inconnus que ces personnes qui étaient censées être mes voisins. Donc j'ai essayé de trouver un métier qui me plairait et qui donnerait du sens à une nouvelle vie, en local. Et en fait, je me suis complètement mis le doigt dans l'œil. Parce qu'en fait, y a très peu de gens en local qui me font intervenir quand même. Je dois le dire, d'où le projet du lieu d'atelier-galerie pour faire comprendre aux locaux qu'est-ce que je fais. Et voilà, ce lieu est donc là pour témoigner de cette chose-là. Ça s'appelle Sensis et c'est 4 rue droite à Quélus. Voilà, à suivre pour ça, je ne sais pas ce qui sera demain. Ensuite, oui, alors par rapport à mon parcours avant d'arriver aux enduits, que j'ai découvert sur un chantier participatif, avis à toutes les personnes qui font des chantiers participatifs, ça peut déclencher des envies irrésistibles. Moi, j'avais décidé de faire plutôt de la charpente bois. Parce que suite à la retape de cette cabane sur Peine, c'était ça qui m'avait touchée. Les outils ne me faisaient pas peur, je me rendais compte que j'avais envie d'être initiée par mes pères. Mes pères bricoleurs, j'entends. Et je me suis plus orientée là-dessus parce que j'avais envie de construire chez moi. Que je me disais que joindre l'utile à l'agréable, ça pouvait être chouette. Et puis j'avais rencontré des artisans magiques, des hommes essentiellement, dans le métier du bois, mais qui m'avaient bouleversée par rapport à ce qu'ils arrivaient à donner comme résultat, ce qu'ils offraient aux clients qu'ils avaient. Un nid sublime, touchant, écolo, tout. Enfin, pour moi, ça avait du sens. Donc j'ai été faire une formation à Decazeville, que j'ai suivi pendant 9 mois à l'AFPA, j'ai eu mon diplôme, j'étais toute fière, c'était hyper dur, mais j'étais très contente de moi, sauf que j'ai pas trouvé de boulot derrière ça. J'ai rencontré des personnes en entreprise qui étaient auto-entrepreneurs et qui m'ont dit qu'ils prenaient que de temps en temps pour des coups de main. Et à vrai dire, comme je sortais d'un espèce d'équivalent de CAP, j'étais pas J'étais pas taillée comme un manœuvre, j'en avais pas les compétences d'un ingénieur, j'avais pas 10 ans d'expérience derrière moi. Ils m'ont fait faire des stages pour me faire plaisir, j'ai très bien travaillé, mais ils m'ont jamais recontactée. Et donc ensuite, je me suis proposée dans des boîtes alentours, mais qui étaient plus tradies. Franchement, ça ne faisait pas du tout le même effet. Mais je me disais qu'il fallait bien que je gagne ma croûte et peut-être qu'ensuite, je réussirais à rencontrer des gens qui ont envie de projets qui, moi, m'animent. Sauf que là, on m'a proposé d'être dans un bureau, à faire de l'étude sur ordi, pour dessiner ou participer à la conception de projets bois. Franchement, non, pas du tout. Donc là, j'étais super déprimée. Sauf qu'entre-temps, j'avais effectivement fait un chantier participatif d'enduit, sur peine aussi, chez une amie qui était danseuse. Et j'avais pris un tel pied, je peux pas dire d'autre mot, j'avais tellement pris mon pied que j'ai recontacté l'artisan, qui était un copain aussi. Et je lui ai dit que s'il avait du boulot pour moi, j'étais prête à apprendre sur le tas et que je voulais tester ça, parce qu'en fait, j'avais pas voulu m'avouer, je crois. Qu'en fait, ça m'avait plus plu encore que le bois. Mais comme je m'étais déjà lancée dans une voie sur la charpente, que lui, il lançait juste sa boîte, je voulais pas risquer de lui faire du tort. Puis bon, voilà, je suis pas quelqu'un qui s'éparpille. J'aime faire les choses à fond. Je commence par une chose, ensuite j'en fais une autre. Mais bon, là, force était de constater que personne ne voulait de moi. Et être charpentier, monter sa boîte, alors qu'on a 6 mois d'expérience ou 8 mois... Enfin, c'est pas honnête, en fait, face aux clients. En tout cas, de mon point de vue. Et du coup, j'ai été bosser avec ses copains. En tout cas, avec un qui était un copain. Un second qui est devenu aussi un copain. Et là, c'était l'extase. Bon, mais c'était pas sans compter toutes les difficultés qu'a ce métier. Trimballer des kilos et des kilos de matière. Des sacs qui font pour certains 40 kilos, notamment ceux de plâtre. C'est horrible. Faut s'organiser, faut faire preuve d'intelligence, faut prendre en compte que son corps, on n'en a qu'un et que du coup, voilà. Heureusement, je me suis encore jamais blessée, ça fait 6 ans que je fais ça et je connais des gens blessés qui ont moins de temps de travail derrière eux parce qu'ils se prennent pour plus fort que ce qu'ils ne sont. Ils ont aussi des choses certainement à se prouver. Moi, de par mon parcours, heureusement, j'ai eu envie de prendre soin. Et voilà. Mais sur ces chantiers, du coup, je me suis par contre rendu compte que j'avais des grosses lacunes techniques, qu'apprendre sur le tas, c'était une bonne chose, mais que faire une formation, ce serait mieux. Mes collègues m'ont fortement conseillé, d'ailleurs, d'aller me former, parce que j'étais douée, mais que je posais des questions un peu pénibles à la longue. S'ils entendent un jour cette interview, ils sauront de quoi je parle. Et donc voilà, après je suis partie en formation à Albi, j'ai pas pu me faire financer la formation parce que je m'étais fait financer celle de charpentier et que heureusement, ou pas, mais on finance pas 10 000 formations par personne. Donc j'ai dû faire cette formation sur 3 ans, autofinancée aussi, heureusement les auto-entrepreneurs ont droit à des points formation, enfin des heures, on a droit à 100 heures par an, donc j'ai bénéficié de ce quota-là. Et puis le Pôle emploi aussi m'a soutenue à un moment parce qu'il comprenait que techniquement il me manquait des choses et je ramenais pas assez de boulot, donc ça a joué. Et grâce à ça, voilà, j'ai mis 3 ans à faire ces 8 mois de formation, donc morcelé. Et voilà, maintenant je suis diplômée d'un titre très pompeux, n'est-ce pas? Accrochez-vous. Ça s'appelle matiériste coloriste en décor mural. Voilà, c'est une super école. Bon, pour ce qui est de la technique, c'est très très complet. Bon, on sort de là, hein. Évidemment, on a juste fait 8 mois de formation, on ne connaît rien du bâtiment et on a tout à explorer. Même d'ailleurs, après 6 mois d'expérience, j'ai encore tout à explorer. Je fais encore des erreurs parfois, mais heureusement, je les rattrape. Je me fais accompagner par des parrains et des marraines qui m'entourent, qui font ce métier-là, très présent, je dois le dire. C'est un très beau métier avec beaucoup de fraternité, ouais, de soutien. Alors, on est assez nombreux sur le secteur à faire le métier d'enduiseur. Donc, je ne cacherai pas qu'on a tous difficilement de quoi subvenir à nos besoins. Ça, c'est la première difficulté. Après, l'aspect physique, qui évidemment est le premier, certes, mais il est dépassable si on s'organise. Là, même si on s'organise, vivre de notre métier, c'est compliqué. Et pas que parce qu'on est nombreux, parce que les clients ne connaissent pas notre métier. Ils s'adressent plus aisément à des maçons qui vont faire un décor classique et traditionnel. Jusqu'au stuc, évidemment, ou au tadlac qu'on nous demande souvent, mais dont les gens n'ont que très rarement les moyens de se payer. Sachant qu'un tadlac, je l'annonce, c'est 200 € du mètre carré, uniquement la finition en deux couches. Donc pour les gens qui souhaitent un tadlac, il y a plein d'équivalents, et notamment le stuc qui coûte 60 à 100 € du mètre carré. Évidemment 100 € pour ceux qui veulent des effets très particuliers. Voilà, donc oui, la difficulté sur le secteur, c'est ça. Ensuite, pour le décor en volume que moi j'adore faire, personne ne m'a encore aujourd'hui demandé un décor en volume depuis 6 années, si ce n'est l'école d'Albi, qui savait que j'avais cette particularité par rapport aux autres et qui m'a demandé un décor en volume qui est toujours sur place au rez-de-chaussée du bâtiment. Décor qui était une commande, j'ai mis 5 semaines à le réaliser, à raison de 12 heures par jour de travail, sans compter les matériaux, je vous laisse compter. Voilà, bon après il existe aussi des petits décors, on peut faire quelque chose qui fait 1 mètre carré, qui a du sens pour les gens, voilà. On peut aussi se donner les moyens de se faire plaisir sur des mini-choses. Il y a bien des œuvres d'art chez les gens qui peuvent faire 10 cm de haut, et 60 cm de large, et donner tout le sens que les gens veulent y mettre. Donc moi, j'accepte aussi les petites choses. Voilà, alors pour certains qui se diraient, mais en fait, ça ressemble à quoi un décor en volume? Ben, vu que je travaille avec la terre, le plâtre et la chaux, j'utilise souvent des structures dessous, soit à base de bois, soit à base de grillage, comme du papier mâché, soit à base de métal déployé, et là, je mets du plâtre souvent, pour que ça puisse monter en volume plus rapidement et que du coup pour les clients ça soit moins cher. Et sinon on peut aussi faire des volumes à l'argile et à la paille, on peut réaliser ça avec les clients, ça peut être des chantiers participatifs qui durent sur la longueur et à ce moment-là je suis payée à l'heure. Et là c'est super excitant parce que ben, certaines personnes ont envie de participer. Donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire seuls ou en tout cas pas seuls avec moi parce que ça nécessite des vraies compétences techniques. Mais d'autres fois, c'est pas le cas. Donc voilà, tout ça, c'est à réfléchir ensemble. Et quoi dire d'autre? Ouais, oser. Oser rêver. Grâce à vous, je rêverai aussi. Voilà, voilà. Bon, donc concernant le volume, pour être plus concrète, je suis une fille. Parfois donc les structures peuvent être ancrées au mur par des scellements type scellements d'ancrage avec des boulonnages, tout ça. Ça peut être aussi, on disque un bout de mur pour mettre des briques plâtrières qui font une assise horizontale comme pour fabriquer des étagères. J'imagine que tout le monde a dans la tête les étagères maghrébines. Ou parfois en Provence aussi, en France, on a ce genre de choses-là. C'est donc des structures de briques au départ qui sont très fines, qui font peut-être 4-5 cm d'épaisseur, qui sont enduites par-dessus. Bon, ben ça déjà, c'est du volume. Et parfois, moi, ça me sert pour créer du volume, je dirais, informel, qui n'est pas reconnu. C'est ni une étagère, ni un placard, ni une paillasse pour une douche, enfin dans une salle de bain, ça peut être juste un arbre qui sort du mur en volume. Et du coup là, pour monter en épaisseur, il me faut des matériaux creux pour qu'il n'y ait pas trop d'enduit, que ça ne prenne pas des mois à sécher. Donc voilà, j'utilise ce genre de choses-là. Ou effectivement, je disais, du grillage ou tout ça. Donc par exemple, pour faire un habillage de lampe dans un angle de mur. Je suis censée faire ça à Kélus, chez une personne, là. Elle m'a dit, je voudrais quelque chose qui ressemblerait peut-être à un arôme. Et elle voulait une lumière indirecte. Donc, on a réfléchi ensemble. Et donc, la structure, ça va être effectivement du plâtre et tout ça sur une structure métallique. Et on se questionne encore aujourd'hui. Peut-être que ça sera un plâtre terre, parce qu'elle veut une teinte. Et que par ici, il y a des terres avec des teintes très chouettes. Donc ça m'évite de pigmenter, et c'est local, et c'est rigolo. Et peut-être même qu'on fera plutôt la même chose, avec du lin, de l'argile, et que ça va donner un effet plus cotonneux, ça va donner une matière. Voilà, donc on réfléchit ensemble actuellement avec la cliente à quelle finition on va donner, à savoir qu'elle la veut blanche au départ, et donc on pourrait faire un badigeon. Voilà, concrètement, ça, on chemine comme ça, on se questionne, et ensemble on se dit, ah ben la solution, ça sera ça. Voilà comment ça se passe pour le volume. Bon, et alors, concernant l'atelier galerie, que je retape depuis 2 ans, tout le long, les gens m'ont dit, mais en fait, c'est quoi ce lieu, et ça ressemble à quoi, et ça va servir à quoi, et alors, la question la pire de toutes, c'est, oui, mais alors, vous êtes designer, c'est super, ouais, c'est bien, et vous bossez avec quels artisans pour réaliser vos idées? Et alors là, je tombais évidemment des nues, parce qu'en fait, j'étais obligée de leur répondre que ah mais je fais appel à personne d'autre que moi-même. Je me lève le matin, je sors ma bétonnière, j'amène mon malaxeur, je trimballe mes outils, je nettoie dans la rue. Et alors, ils croyaient que je blaguais parfois. Et pour certains autres, évidemment, quand ils me voyaient dans ma remorque en train de pelleter jusque dans la béto, avec voilà, mes petits bras, parce que j'ai un gabarit, je dirais, assez fluet. Je suis pleine de muscles, mais bon, je ne suis pas très imposante. Souvent, les gens me disaient « Oh là 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 là, mais c'est votre mari qui devrait faire ça. Enfin, mais en fait, il est dedans, il est en train de vous préparer le mélange pour vous, pour lui. » Et je disais « Mais non, je prépare le mélange pour moi. Ah bon, mais vous faites ça toute seule. Non, mais vous auriez peut-être besoin d'aide. » Souvent, on me disait aussi « Quand j'ai fait les marches d'escalier... » Ah oui, quand j'ai fait les marches d'escalier du garage, il y a un ami de la voisine qui était fleuriste, qui est passé un jour alors que j'avais le garage ouvert. Et j'étais à genoux par terre en train de faire un béton de chaux à base de mélange, des cailloux, tout ça, enfin voilà, pour faire une semelle, pour faire un escalier. Alors une semelle, c'est un peu épais, c'est beaucoup, beaucoup de matos. Et puis je faisais un treillis en bambou parce que c'était à la chaux, je ne pouvais pas mettre des treillis métalliques. Alors le gars, il commence à me dire « Ah mais tu as mis un treillis de bambou ?»« Oui, enfin, avec du fer à béton, on serait quand même vachement plus costaud. » Ah mais t'as fait ça à la chaux, mais en fait t'aurais dû faire ça au ciment. Ah mais tu sais vraiment comment on fait? Non, parce que moi j'ai retapé ma maison et j'étais morte de rire parce qu'en fait, bah oui, force était de constater que c'était un très bon bricoleur, mais qu'il savait pas qu'on met pas de treillis métalliques en fait dans du ciment parce que ça marche pas. Ça, à un moment ça déconstruit la. Avec un béton de chaux. Et donc il me donnait des conseils d'un bricoleur du dimanche quoi. C'est mais. Bon, j'avais rien à dire de particulier, je lui ai remercié pour ses précieux conseils et franchement j'aurais mis 2 heures à lui expliquer, il m'aurait même pas cru. Mais bon, je suis confrontée à ça tous les jours et maintenant ça me fait sourire, mais c'est vrai qu'il y a quelques années ça aurait pu un peu m'aplatir. Mais voilà, parfois j'ai aussi des gentils clients qui me donnent des conseils. Alors je les accueille, évidemment. Et ensuite je leur explique que dans ce cas de figure-là, ça me semble pas forcément pertinent, alors j'amène des ouvrages pour étayer mes arguments. Et puis, on tombe d'accord ou pas. Mais c'est amusant, artisane.
C'était la première de C'est quoi ce travail, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr en tapant C'est quoi ce travail. Et dans les prochaines émissions, il y aura d'autres portraits de femmes sur des parcours professionnels. Ce que je retiens d'un des parcours, celui de Fanny par exemple, c'est que... elle avait eu affaire à un employeur qui leur avait proposé un entretien en couple. Hein, rappelez-vous, ils cherchaient tous les deux un contrat d'apprentissage. Donc c'est assez inédit, comme quoi tout est possible. Et qu'ensuite, il avait choisi de prendre plutôt Fanny Caco que son partenaire parce qu'il pensait qu'elle aurait plus de difficultés à trouver un contrat d'apprentissage dans le bâtiment. Ce qui est prévu au niveau des émissions, c'est de faire aussi des portraits d'entreprises qui auraient des pratiques un petit peu différentes et pour montrer des possibles, justement. Oui, c'est possible.
Run this back. I'm prepping for the girls. I'm taking over the.